Alors, on va commencer notre septième leçon aujourd'hui dans notre série sur le péché, les 10 commandements et la grâce. Alors, aujourd'hui, on va regarder l'ampleur du péché. Alors, jusqu'ici, on a examiné l'origine, la réalité, la nature et les résultats du péché. Aujourd'hui, on va regarder l'ampleur du péché. Il y a deux facettes à cette question. Donc, son universalité, qui veut dire sa présence chez tous les hommes, et aussi sa dépravité, donc la profondeur de la corruption qui l'amène chez l'homme. On va commencer par le premier point, l'ampleur du péché dans son universalité. Bien entendu, le péché ne se limite pas à quelques individus isolés, ou même à une majorité de la race humaine. Tous les hommes, sans exception, sont des pécheurs. Alors, on va regarder ça sous différents angles, l'enseignement de l'Ancien Testament, puis ensuite l'enseignement du Nouveau Testament. Alors, l'enseignement de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Genèse chapitre 8, verset 21, L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Psaume 14, versets 1 à 3, au chef des chantres de David, « L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Un roi, verset 46, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. » Moi, j'en ai connu seulement un homme à qui on a essayé d'évangéliser, qui disait qu'il n'avait pas péché. Puis justement, on l'avait emmené à ce verset-là. Faut dire que ça l'a... Le hériter un petit peu. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors, il y a des versets qui sont très clairs. C'est Dieu lui-même qui le dit. Alors, comment qu'un homme dit qu'il n'a jamais péché? Je pense qu'il s'illusionne lui-même. Maintenant, on va regarder plusieurs. Bien entendu, il y aurait beaucoup d'autres versets dans l'Ancien Testament pour démontrer que l'homme est pécheur, tous les hommes sont pécheurs. On va regarder maintenant quelques enseignements, quelques versets du Nouveau Testament. Bien entendu, Romains 3, 23, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Acte 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il disait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, le jour du jugement est fixé. Jean chapitre 3, versets 4 à 7. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Bien entendu, c'est loin d'être une liste exhaustive des versets à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament qui démontrent l'universalité du péché. Maintenant, le deuxième point qu'on va regarder, l'ampleur du péché par la dépravité totale. Les Saintes Écritures représentent l'homme comme étant totalement dépravé. L'expression « totalement dépravé » est cependant sujette à une mauvaise interprétation. Elle se doit d'être utilisée avec des explications. Alors, on va commencer par regarder ce qu'elle ne veut pas dire pour ensuite examiner ce qu'elle veut dire. Alors, on va commencer par ce que l'expression ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire que l'homme est destitué de conscience. La conscience de l'homme lui indique ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, dans Jean 8, versets 3 à 9, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, ce n'était pas des gens régénérés. Cependant, quand Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre, ils se sont tous retirés. Donc, à quelque part, il reste dans l'homme une conscience qui lui montre son péché. Autre point que la totale dépravité n'est pas, c'est que les hommes sont dépourvus de toute qualité qui plaise aux hommes, jugés selon les critères humains. Alors, dans Marc, chapitre 10, versets 18 à 22, alors ici, c'est le jeune homme riche, là. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. On voit que Jésus approuve le fait qu'il ait fait des efforts toute sa vie pour obéir au décalogue. Parce qu'il dit, j'ai fait ces choses. Mais le Seigneur voyait que ce n'était pas vraiment un accomplissement parfait, là. Alors en lui demandant de le suivre et de tout vendre, là il mettait vraiment à l'épreuve. Mais selon les critères des hommes, même Jésus lui dit, Jésus l'ayant regardé l'aima. Mais ça ne veut pas dire que les gens étaient pour autant sauvés, mais le fait qu'ils disent qu'ils l'aimaient, ça veut dire qu'ils approuvaient l'effort que l'homme faisait pour se soumettre à la loi. Malachie 1, verset 6, « Un homme honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'amour qui m'est dû, l'honneur qui m'est dû, c'est-à-dire, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alors ici, Seigneur, il dit, un fils honore son père. Alors, aux yeux des hommes, les hommes sont capables de faire des choses qui sont approuvées et appréciées par les autres hommes. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que les hommes ne sont pas... ça ne veut pas dire que les hommes sont dépourvus de toute qualité qui plaise aux hommes, mais bien entendu, j'ai mis entre parenthèses, jugés selon les critères humains. Troisième chose que ça ne veut pas dire, dépravité totale, ça ne veut pas dire que les hommes vont pratiquer systématiquement toutes les formes du péché. Certaines formes de péché en excluent d'autres. On va aller voir Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Romains chapitre 2, verset 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, ça ne veut pas dire que les hommes vont avoir commis toutes les formes de péché possibles et imaginables. Ça ne veut pas dire non plus, autre point, que l'intensité de leur égoïsme et de leur opposition à Dieu peut être aussi grande qu'il soit possible, mais qu'il peut empirer chaque jour. Par exemple, on lit dans Genèse chapitre 15, verset 16, « À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc, autrement dit, ce qu'il est en train d'enseigner, c'est que l'intensité de leur égoïsme et de leur opposition à Dieu n'était pas encore aussi grande qu'il pouvait le devenir. Il y avait une croissance dans le mal. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, on a à peu près la même idée. Ça dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. » Donc, ça implique une croissance dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc, après qu'on a vraiment défini qu'est-ce que ça ne veut pas dire, maintenant, il faut regarder qu'est-ce que ça veut dire. L'expression « totalement dépravé » veut dire que chaque pécheur est, premièrement, totalement destitué de l'amour envers Dieu, l'exigence fondamentale et qui inclut tout du décalogue ou de la loi. Jésus leur dit, dans Jean 5, 42, il dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Donc, être totalement dépravé, ça veut dire que tu es totalement destitué de l'amour envers Dieu. Deuxième application, chose que ça veut dire, que l'homme est coupable de s'élever lui-même au-dessus de l'amour qu'il doit à Dieu. Donc, autrement dit, il a des devoirs envers Dieu, mais il est capable de se mettre lui-même au-dessus de Dieu et de négliger les devoirs qu'il a envers Dieu pour satisfaire ses propres besoins. 2 Timothée, chapitre 3, versets 4 et 5, qui dit... Il parle des hommes à la fin des temps, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, ils se placent eux-mêmes dans la satisfaction de leur plaisir au-dessus de Dieu lui-même, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Troisième chose que l'expression totalement dépravée veut dire, déterminer à s'accorder la préférence à lui-même plutôt qu'à Dieu, tant dans sa vie intérieure qu'extérieure. En anglais, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2, moi j'aime la façon dont c'est exprimé en anglais, « lovers of self », donc tu n'aimes pas Dieu, tu t'aimes toi-même. Alors, en français, ça se dit « car les hommes seront égoïstes ». ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux. N'est-ce pas que si on ouvre les yeux autour de nous aujourd'hui, qu'on voit ces choses-là qui sont décrites abondamment. Et autre chose que ça veut dire, c'est que les hommes possèdent une aversion pour Dieu qui est parfois latente et qui peut devenir de l'inimitié ouverte lorsque la volonté divine s'oppose à la sienne. Romains chapitre 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Autre chose que ça veut dire, corrompu dans toutes ses parties. Alors, on sait que l'être humain a plusieurs différentes parties, son corps, son esprit, ses émotions, sa volonté, et il est corrompu dans toutes ses parties. Éphésiens chapitre 4, verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Tite, chapitre 1, verset 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Bien entendu, tout ça, parce qu'on appelle la série « Le péché, les 10 commandements et la grâce », quand on va être rendu à la grâce, on va revenir sur chacun de ces points-là plus en détail pour pouvoir mieux apprécier justement la grâce. Autre point qui veut décrire un peu ce que c'est la dépravité totale, c'est que l'homme n'ayant aucune pensée, émotion ou action pouvant être pleinement approuvée par la sainteté divine. Romains 3, verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Autre chose que ça veut dire, dépravé, ça veut dire assujetti à une loi de constant progrès dans la dépravité contre laquelle il n'a pas l'énergie de résister avec succès. Quand on regarde les hommes dans leur vie de péché, il y a une croissance, ce que ça dit, il y a un constant progrès dans la dépravité. Il y a un enracinement, un enlisement, qu'on pourrait dire, qui est progressif. Romains 7, verset 18, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et Romains 7, verset 22 à 23, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alors, on a vu les différents aspects. Maintenant, il y a un autre aspect qui est intéressant, parce que quand on regarde dans la théologie, il y a beaucoup de personnes qui disent approuver la doctrine de la dépravité totale de l'homme, dans ses différents aspects, tout ce qu'on vient de voir. Cependant, là où on se distingue, et je pense que la Bible, moi je suis convaincu que c'est ça que la Bible enseigne, c'est ce qu'on appelle... en anglais, « total inability ». Donc, comment on peut traduire ça par « impuissance et incapacité totale ». Donc, autrement dit, si on est vraiment corrompu dans la façon dont on vient de décrire, on l'est à un niveau tel qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Et c'est ça qui distingue de certaines personnes qui disent approuver la doctrine de la dépravité, mais ils se disent capables de chercher Dieu. Alors, les Écritures n'enseignent pas ça. Alors, l'impuissance et l'incapacité totale, en anglais, c'est dans les livres anglophones, ils appellent ça « total inability », donc l'incapacité. Nous devons préciser ce que signifie impuissance et incapacité totale. L'homme qui n'a pas reçu la grâce de Dieu peut parfois refuser de céder à certaines tentations, choisir d'accomplir un péché moins grave lorsqu'il en a le choix, faire de bonnes actions aux yeux des hommes, mais avec de mauvais motifs, et rechercher, entre guillemets, Dieu pour des motifs égoïstes et intéressés. Mais voici ce qu'il ne peut pas faire. Alors, on vient d'expliquer un petit peu l'expression « impuissance et capacité totale ». Donc, on vient de dire qu'est-ce qui est dans ses limites, mais on va aussi déterminer qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas, par sa volonté, amener son caractère et sa vie en conformité avec la loi de Dieu. Autre chose qu'il ne peut pas faire, changer sa préférence fondamentale pour lui-même et pour le péché en amour suprême pour Dieu. Il ne peut pas le faire par lui-même. Et, troisième chose, il ne peut pas faire des actions, même insignifiantes, qui peuvent rencontrer la pleine approbation de Dieu ou répondre extensivement aux exigences de la loi divine. On va regarder plusieurs versets qui démontrent cela. Bien entendu, on fait une étude assez superficielle. Quand on veut étudier ça en profondeur, il faut aller voir encore plus et regarder qu'est-ce que ceux qui nient cette doctrine-là, quels sont les arguments qu'ils amènent ou les versets qu'ils amènent, et être capable de démontrer qu'ils utilisent des versets hors contexte, et être capable aussi d'harmoniser l'ensemble de l'enseignement des Écritures sur ce sujet-là. Donc, on va regarder différents versets qui nous parlent de ça. Jean 1, versets 13, 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ici, c'est clair. L'Écriture nous enseigne que ce n'est pas parce que c'est notre volonté ou que c'est la volonté du sang. Alors, c'est vraiment, on est né de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, s'il l'a donné le pouvoir, c'est parce qu'elle ne l'avait pas. Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, s'il n'est pas né de nouveau par le Saint-Esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu par lui-même. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'Esprit, avec un E majuscule, donc ce qui est né du Saint-Esprit, est Esprit. Jean 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et quand on étudie Jean 6, 44, un peu plus en profondeur, quand ça dit « ne l'attire », c'est le verbe, semble-t-il, c'est « ne le tire ». Si Dieu lui-même ne te tire à venir vers Christ, tu n'iras pas. Jean 8, 34, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jean chapitre 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il y a une belle leçon pour nous, savoir que peu importe ce qu'on veut faire du point de vue spirituel, on a besoin de l'aide de Christ, sinon on ne réussira pas. Romains 7, verset 18 et verset 24. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Romains 8, versets 6 à 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ici, bien entendu, quand on parle de l'homme animal, on parle de l'homme non régénéré. Il ne peut pas connaître les choses de l'Esprit parce que, comme ça le dit, pour lui, c'est de la folie. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 et verset 8 à 10. Verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le troisième point qu'on va regarder, que se passe-t-il quand un chrétien pêche? C'est important qu'on le réalise, qu'on s'en souvienne aussi, ces choses-là. Alors, la première chose qu'on se doit de savoir, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien pêche, c'est que notre statut légal devant Dieu reste inchangé. Ce sujet pourrait être traité plus tard en relation avec l'adoption et la sanctification, mais il convient également de l'aborder ici. Quand un chrétien pêche, son statut légal devant Dieu reste inchangé. Il est toujours pardonné, car il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, Romains 8, verset 1. Le salut n'est pas fondé sur nos mérites, mais c'est un don gratuit de Dieu, comme on peut le lire dans Romains 6, 23. Et la mort du Christ a bien sûr payé pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Le Christ est mort pour nos péchés, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Il est mort pour nos péchés sans distinction. En termes théologiques, nous conservons notre justification. De plus, nous sommes toujours des enfants de Dieu et des membres de la famille de Dieu. Dans la même épître où Jean dit, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Il rappelle aussi à ses lecteurs, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. » 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Le fait que le péché soit toujours présent dans notre vie ne signifie pas que nous avons perdu notre statut d'enfant de Dieu. En termes théologiques, nous conservons notre adoption. Donc, on conserve deux choses, notre justification et notre adoption. Autre chose qui se passe quand un chrétien pêche, notre communion avec Dieu est interrompue et notre marche chrétienne en pâtit. Lorsque nous péchons, même si Dieu ne cesse pas de nous aimer, il est mécontent de nous, même chez les êtres humains. Il est possible d'aimer quelqu'un et d'être mécontent de cette personne en même temps, comme n'importe quel parent ou n'importe quelle personne mariée pourrait l'attester. Paul nous dit qu'il est possible pour les chrétiens d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. On peut lire ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Quand nous péchons, nous lui causons du chagrin et il est mécontent de nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Hébreux 12, verset 6. Et que notre Père céleste nous corrige pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux 12, verset 9 et 10. Quand nous désobéissons, Dieu le Père est attristé un peu comme un Père terrestre est attristé par la désobéissance de ses enfants. Et il nous corrige. On trouve un thème similaire en Apocalypse 3, où le Christ ressuscité s'adresse du ciel à l'Église de Laodicée en ces termes. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Apocalypse 3, 19. Ici encore, l'amour et la réprimande sont associés dans la même déclaration. Le Nouveau Testament témoigne donc du mécontentement des trois membres de la Trinité lorsque les chrétiens pêchent. Alors, on pourrait aller voir d'autres versets, Isaïe 59, versets 1 et 2, 1 Jean chapitre 3, verset 21. Alors, on va aller voir comment la confession de foi de Westminster exprime cette idée-là concernant les chrétiens. Ça dit, dans le chapitre 11, à l'article 5, « Dieu continue à pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés, mais ceux-ci, bien qu'ils ne puissent jamais déchoir de l'état de justification, peuvent cependant, par leurs péchés, tomber sous le déplaisir paternel de Dieu, et ils ne retrouvent la lumière de sa face qu'après s'être humiliés, avoir confessé leurs péchés, imploré le pardon et renouvelé leur foi et leur repentance. » Je n'ai pas regardé comment la nôtre, la confession de foi, mais confession baptiste 1689, mais je suis sûr qu'on a l'équivalent, je n'ai pas regardé. Hébreux 12, de même que de nombreux autres exemples historiques dans l'Écriture, montre que le déplaisir paternel de Dieu conduit souvent à la correction dans notre vie chrétienne. Hébreux 12, 10 nous dit, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. En ce qui concerne la nécessité d'une confession régulière de nos péchés, Jésus nous rappelle que nous devons prier chaque jour. Alors, dans Matthieu 6, verset 12, ça ici, c'est une traduction que l'auteur lui-même a faite. « Pardonne-nous nos péchés, comme nous avons pardonné à ceux qui pêchent contre nous. » Quand nous péchons en tant que chrétiens, ce n'est pas seulement notre relation personnelle avec Dieu qui est interrompue. Notre vie chrétienne et notre efficacité dans le ministère en souffrent également. Jésus nous avertit, « Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter du fruit. » Jean 15, verset 4. Lorsque nous perdons notre communion avec le Christ en raison du péché, notre attachement au Christ diminue. Les auteurs du Nouveau Testament parlent fréquemment des conséquences destructrices du péché dans la vie des croyants. En fait, de nombreuses sections des Épîtres s'attachent à reprendre les chrétiens et à les dissuader de persister dans les péchés qu'ils sont en train de commettre. Paul dit que si les chrétiens se mettent au service du péché, ils deviennent de plus en plus esclaves du péché. Romains 6, 16. Alors que Dieu veut que les chrétiens se mettent de plus en plus au service de la justice. Si notre but est de grandir en sainteté jusqu'au jour où nous mourrons et entrerons dans la présence de Dieu, nous mettre au service du péché, c'est rebrousser chemin et nous éloigner du but que nous nous sommes fixés de ressembler à Dieu. C'est aller dans une direction qui conduit à la mort et à la séparation éternelle d'avec Dieu, une direction opposée à celle que nous avons prise quand nous sommes devenus chrétiens. Pierre dit que les mauvais désirs qui subsistent dans notre cœur font la guerre à l'âme. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Alors le langage militaire traduit bien la pensée de Pierre, qui voit les mauvais désirs qui subsistent en nous comme des soldats dont la cible est notre bien-être spirituel. Céder à ces mauvais désirs, les entretenir et les chérir dans notre cœur, c'est un peu comme offrir l'hospitalité aux troupes de l'ennemi. Si nous nous livrons aux désirs qui font la guerre à notre âme, nous allons inévitablement ressentir une perte de force spirituelle et d'efficacité dans l'œuvre du royaume de Dieu. De plus, quand nous péchons en tant que chrétiens, nous subissons une perte de récompense céleste. L'œuvre de celui qui a bâti, non avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais avec du bois, du foin ou de la paille, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, sera consumé ou brûlé, et il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Paul est conscient que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Paul laisse entendre qu'il y a des degrés de récompense dans le ciel et que le péché entraîne une perte de récompense céleste. Et le dernier point, on va regarder le danger de ce qu'on pourrait appeler les évangéliques non convertis. Alors qu'aucun chrétien authentique qui pêche ne perd ni sa justification, ni son adoption devant Dieu, il est important de savoir que le simple fait de fréquenter une église évangélique et de se conformer extérieurement aux règles de conduite qu'on pourrait dire chrétiennes ne garantit pas le salut. Surtout dans les sociétés ou cultures où il est facile, voire même normal, de se dire chrétien, il est tout à fait possible que des personnes qui ne sont pas réellement nés de nouveau s'associent à l'Église. Je pense que les Écritures nous en parlent comme le blé l'ivraie. Si ces personnes se montrent de plus en plus désobéissantes envers le Christ en ce qui concerne leur style de vie, ils ne devraient pas être maintenus dans l'autosatisfaction par la fausse assurance de leur justification ou de leur adoption. Autrement dit, dans une église, quand on voit des gens qui marchent dans le péché de façon continuelle, on ne se doit pas de les rassurer puis de dire « ben non, t'es sauvé ». C'est peut-être un signe de non, de la personne n'est pas sauvée. Alors, une attitude constante de désobéissance envers Dieu, associée à l'absence de fruits spirituels, tels que l'amour, la joie, la paix, etc. On peut aller lire là-dessus Galates, chapitre 5, verset 22-23, est un signal d'alarme que la personne n'est probablement pas authentiquement chrétienne, qu'il n'y a probablement jamais eu chez elle de foi sincère, ni d'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Jésus avertit qu'il dira à certaines personnes qui ont prophétisé, chassé des démons et accompli de nombreux miracles en son nom, « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Matthieu 7, verset 23. De même, Jean nous dit que si quelqu'un dit « Je le connais », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Jean parle ici d'une désobéissance persistante. Une désobéissance croissante et persistante envers le Christ devrait nous amener à douter de l'authenticité de la foi de la personne en question. Alors, les applications. La doctrine de l'universalité du péché devrait nous inciter à évangéliser tous les hommes et à encourager l'effort missionnaire. Deuxième application, ne nous fions qu'en Jésus-Christ pour faire des progrès dans la marche chrétienne. Souvenons-nous que seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à mortifier le péché dans nos vies. Et la troisième, qui a un rapport avec justement le blé l'ivraie, examinons-nous pour savoir si nous sommes dans la foi telle qu'il nous est commandé dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, on se doit de s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Donc, c'est notre responsabilité. Bien sûr, comme croyants, on a aussi la responsabilité de mettre quelqu'un en garde si on le voit continuellement dans un état de péché, mais c'est la responsabilité de la personne elle-même aussi. Alors, bénissons et adorons notre grand Dieu.